Vous écoutez, on lit pour vous.
Qui est Georges Simion, le Donald Trump de Roumanie? Un texte de Mathieu Carbas paru le 17 mai 2025 dans Le Devoir. Rasé de près, coiffure impeccable et costume bleu saphir ajusté, Georges Simion a une nouvelle fois soigné son apparence. Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle de la Roumanie, arrivé en tête du premier tour avec plus de 40% des voix, a convié une poignée de journalistes internationaux à une rencontre informelle. Une chance que n'auront pas les journalistes roumains. Georges Simion refuse d'accorder des entrevues aux médias traditionnels de son pays et quand il s'adresse à eux, c'est pour leur reprocher de ne pas poser les bonnes questions. Cette défiance, comme celle qu'il entretient envers les institutions démocratiques, est une des nombreuses facettes qu'il partage avec l'un de ses modèles, Donald Trump. Présent à l'assermentation du président américain le 20 janvier 2025, Georges Simion s'inspire sans complexe du mouvement MAGA. « Donald Trump et moi représentons le même mouvement », explique-t-il d'entrée de jeu, et « oui, je marche sur ses traces ». Désormais, il n'y aura plus que des hommes et des femmes aux États-Unis, comme en Roumanie. Une première flèche décochée en direction de l'Union européenne, UE, et de ses politiques progressistes qui accordent, selon lui, trop d'importance au délire LGBT. L'homme est affable et répond sans détour aux questions, en politicien aguerri. Sa deuxième flèche sera pour la classe politique roumaine et pour l'Union européenne, coupable à ses yeux d'avoir appauvri son pays. La Roumanie est un pays riche, mais figure au dernier rang, avec la Bulgarie, des pays de l'Union européenne en matière de richesses produites. À partir de maintenant, la politique économique de la Roumanie sera « drill, baby drill », affirme-t-il, faisant sien l'un des slogans de campagne de Donald Trump. Pour lui, il est temps que la Roumanie recommence à exploiter ses ressources naturelles, tombées aux mains d'intérêts étrangers. Trump veut faire passer les intérêts de l'Amérique en premier. Moi, je veux faire passer les intérêts de la Roumanie en premier. Adina Marinsea, chercheuse à l'Institut national Elie Wiesel, pour l'étude de l'Holocauste en Roumanie et spécialiste des courants d'extrême droite, retrouve la rhétorique du président américain dans les discours de Georges Simion. Il utilise les mêmes références au patriotisme ou à la révolution conservatrice. Comme Trump, il s'est aussi rapproché du religieux, alors qu'il n'était pas vraiment proche de l'Église auparavant. Recette chère à l'extrême droite. Titulaire d'un baccalauréat en affaires et administration et d'une maîtrise en histoire, Georges Simion s'est fait connaître très tôt pour sa fibre nationaliste exacerbée. Les prises de position expansionnistes du candidat, un nostalgique de la grande Roumanie de l'entre-deux-guerres, qui s'étendait sur une partie du territoire actuel de l'Ukraine et de la Moldavie, lui ont valu d'être persona non grata dans ces deux pays, encore aujourd'hui. Impliqué dans la formation de deux groupes de partisans de l'équipe nationale de soccer connus pour leurs chants racistes et leurs comportements violents, il a écopé en 2011 d'une interdiction de stade de 6 mois. C'est en 2019 que Georges Simion se lance pleinement sur la scène politique avec la création de l'Alliance pour l'unité des Roumains, AUR, un parti qui reprend les recettes chères à l'extrême droite. Défense des valeurs chrétiennes, conservatisme social, glorification du passé et discours nationaliste. Dopé par le contexte pandémique et l'opposition d'une partie de la population aux mesures sanitaires, l'AUR prend son envol lors des élections de 2020. Faisant élire 33 députés et 14 sénateurs. Une percée confirmée lors des élections suivantes, en 2024, et lors du premier tour de la présidentielle du 4 mai dernier, où il obtient plus de 20 points d'avance sur son plus proche concurrent, le candidat de centre-droit, Nikouzor Don. et ce, alors qu'il n'avait réuni que 14 % des suffrages lors du premier tour de ce même scrutin en novembre 2024, annulé en raison d'une tentative d'ingérence russe au profit du candidat d'extrême droite, Calin Georgescu, arrivé en tête, mais écarté depuis de la course présidentielle. Ouvertement populiste, son programme économique est fait de promesses que lui-même affirme parfois ne pas pouvoir tenir. Comme quand il propose de faire construire 1 million de maisons à 35 000 euros, 55 000 $ canadiens, pour les moins nantis, avant d'avouer sans scrupule au lendemain du premier tour qu'il s'agissait d'une opération de marketing afin de l'emporter. S'inspirant du président américain, Georges Simion a promis de mettre à la porte 500 000 fonctionnaires s'il était élu. Et comme Donald Trump, il affole les marchés boursiers à tel point que la Banque centrale de Roumanie a dû injecter plusieurs milliards d'euros pour maintenir la valeur du leu, la monnaie locale. En quête de respectabilité. Quand il répond en tête-à-tête aux questions du devoir, Georges Simion joue continuellement avec la bague qu'il porte à l'annulaire gauche, celle de son mariage largement médiatisé avec Ilinka Munteanu, professeur d'éducation sociale au niveau collégial. En août 2022, cette union s'est révélée un événement chargé de symbolisme nationaliste. Dans un cadre champêtre, Simion est apparu en costume traditionnel lors d'une cérémonie grandiose qui rappelait le mariage en 1924 de Corneliu Chondrianu, un leader nationaliste et antisémite de l'entre-deux-guerres. Si ce mariage a donné des gages à ses électeurs les plus radicaux, Georges Simion a depuis essayé d'adoucir son discours afin de rendre son parti plus fréquentable. Il tente d'appliquer ce qu'on appelle en France la dédiabolisation de l'extrême droite. Il a par exemple éliminé de ses prises de parole les références néo-fascistes explicites et certaines références pro-russes, explique Adina Marincea. Cependant, il a toujours un discours ambivalent dans certaines entrevues. Il joue sur les deux tableaux pour ne pas s'aliéner une partie de son électorat. Sur la Russie et l'Ukraine, son discours aussi a évolué. En entrevue au Devoir, Simion parle de la Russie comme d'un agresseur qui constitue le plus grand danger pour la stabilité de l'Europe de ces 200 dernières années. Pourtant, à Moscou, on se réjouit du succès de celui qui est considéré comme l'ennemi des ennemis du Kremlin, comme l'a affirmé à la radio roumaine un officiel russe après la victoire de Georges Simion au premier tour. Après avoir plusieurs fois changé d'avis sur le dossier ukrainien, Simion se dit aujourd'hui pour la paix et contre l'escalade, reprenant la rhétorique du président américain. Je soutiens le plan de Donald Trump pour la paix. Je suis prêt à aider l'Ukraine si l'Ukraine respecte les minorités roumaines, a-t-il déclaré devant les médias étrangers le soir du premier tour. Et quand le Devoir lui demande ce qu'il pense du fait que des politiciens l'accusent d'adoucir son discours uniquement pour amasser des voix, la réponse est nette. Ils ont raison. Je suis un politicien. C'est ce qu'il faut faire pour mobiliser les électeurs. Je t'agresse sexuellement. Si Georges Simion tente d'aujourd'hui de redorer son image, c'est aussi parce que son premier mandat de parlementaire entre 2020 et 2024 a été émaillé de plusieurs événements violents. Comme en 2023, lorsqu'il a lancé à une députée en plein Parlement « Je t'agresse sexuellement, grosse vache ». Ou, quand il a saisi par le cou un autre député en 2022, avant qu'un collègue les sépare. Autant d'escarmouches qui ont été filmées et partagées par ce dernier sur ses réseaux sociaux. Car pour lui, le conflit est une marque de fabrique et les seuls médias qui valent désormais en Roumanie sont les médias sociaux. TikTok est ainsi devenu sa plateforme de choix pour diffuser ses messages politiques dans un pays où les médias traditionnels peinent à rejoindre un large public et où il n'existe plus de quotidien d'information. Sur TikTok, Georges Simion l'emporte haut la main face à tous ses adversaires. Sa chaîne compte 1,5 million d'abonnés et ses publications totalisent plus de 33 millions de likes. Son adversaire, Nick Ouzordan, réunit 333 000 abonnés pour 5 millions de likes. Si le parti de Georges Simion est clairement populiste, nationaliste, eurosceptique sur TikTok, en revanche, l'image de l'AUR est construite avec beaucoup plus de soin et de modération. Conscient que la plateforme lui permet de toucher les plus jeunes, il s'y présente comme quelqu'un qui peut sauver la Roumanie de la corruption et de l'immobilisme. Comme il l'affirmera au Devoir en conclusion de l'entretien qu'il nous a accordé, « Je suis candidat à ces élections pour ramener la démocratie dans notre pays. » C'était « Qui est Georges Simion, le Donald Trump de Roumanie ?» Un texte de Mathieu Carbas paru le 17 mai 2025 dans le Devoir.
Faites la connaissance des champions de la cause de l'albinisme, Dr. Shari Parker. Un texte de la rédaction paru sur le site web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Dr. Shari Parker, médecin généraliste et spécialiste de la rééducation, présidente de la World Albinism Alliance, Alliance mondiale pour l'albinisme, et secrétaire de l'Albinism Fellowship of Australia, Association australienne de l'albinisme. En grandissant, le Dr. Shari Parker voulait se prouver à elle-même et au reste du monde qu'elle n'était pas différente. Son parcours est un cheminement gratifiant vers l'acceptation et la réussite personnelle et professionnelle. Les premières années. Je m'appelle Shari Parker. Je suis une personne vivante avec l'albinisme. J'ai les cheveux et la peau d'une couleur blanc laiteux et je suis aveugle au sens de la loi. Je vis à Sydney, en Australie, ville célèbre pour son opéra et pour son pont sur la baie. Je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis médecin spécialisé. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où j'étais accepté pour ce que j'étais, avec mon albinisme et tout le reste. On m'a toujours encouragé à exceller. Ma sœur aînée, atteinte elle aussi d'albinisme, a été mon mentor, un modèle de courage, une source d'inspiration. Ma famille acceptait mon albinisme mieux que je l'aurais fait moi-même. Enfant, j'avais du mal à comprendre ce que signifiait être atteint d'albinisme. Quand je sortais du cadre protecteur de ma famille, je recevais mon lot d'insultes, de Casper à Tas de neige, en passant par Elle est aussi aveugle qu'une chauve-souris. Les instituteurs disaient à mes parents que je ne devais pas aller à l'école avec des enfants normaux, et certains parents interdisaient à leurs enfants de jouer avec moi. Je ne leur en voulais pas, mais je gardais tout pour moi. Je me sentais profondément différente, pire, une moins que rien. Je ressentais de la colère et du dépit d'être née malvoyante, avec un teint d'une pâleur cadavérique. Cette profonde angoisse était une étape importante, quoique douloureuse, dans mon cheminement vers ma propre compréhension et acceptation de moi-même, et son écho me hante encore parfois aujourd'hui. Résolution. Finalement, mon incertitude s'est transformée en une grande détermination à ne pas me laisser définir en fonction de ma maladie. Je suis devenu plutôt obstiné, entêté et dogmatique. J'ai décidé de ne pas laisser cette maladie, cette mutation génétique, ce handicap, pas plus que l'attitude des autres vis-à-vis d'elle et de moi, limiter ou définir mon identité. Comme je ne supporte pas du tout le soleil, je passais mon temps à la bibliothèque de l'école pendant la pause de midi, et c'est ainsi que j'ai réalisé que j'étais doué à l'école. J'ai opté pour la carrière la plus improbable pour quelqu'un d'aveugle au sens de la loi. J'ai décidé de devenir médecin. Mon parcours pour devenir médecin spécialiste, alors que j'ai une vision limitée, n'a pas toujours été facile. Mais mes autres sens ont été mes meilleurs alliés. en plus de ma capacité de compassion, de connexion et de compréhension du véritable impact de la maladie ou de la blessure sur les personnes. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'exerce la profession de médecin depuis près de 15 ans. J'ai également suivi une formation complémentaire pour me spécialiser dans la rééducation. Je travaille depuis 6 ans avec des personnes handicapées dépassant le reste de l'Australasie en matière d'examen clinique spécialisé. Aujourd'hui, je suis très occupé et ma vie est bien remplie. Entre mon travail de médecin-conseil dans un grand hôpital de soins tertiaires, mon travail d'enseignante dans 2 universités et ma vie d'épouse et de mère de 3 jeunes enfants, je n'ai guère de temps libre dans la journée. J'ai le privilège de travailler comme bénévole auprès du groupe local d'entraide pour les personnes atteintes d'albinisme et de participer à la création de la World Albinism Alliance, qui rassemble des organisations de défense des personnes atteintes d'albinisme du monde entier, œuvrant ensemble en faveur d'objectifs communs. Aspirations en matière de droits de l'homme. Accepter soi-même son albinisme est la condition sine qua non à son acceptation par les autres, et je continue personnellement de m'y efforcer tous les jours. Mon plus sincère espoir et mon rêve, c'est que chaque personne atteinte d'albinisme dans le monde, quel que soit son patrimoine, sa situation socio-économique, son environnement culturel, sa religion et son genre, puisse apprendre à connaître et à comprendre vraiment son albinisme, trouver les mots pour le décrire aux autres, et avoir la liberté d'être soi-même sans crainte, mais avec fierté. C'était « Faites la connaissance des champions de la cause de l'albinisme », Dr. Shari Parker, un texte de la rédaction paru sur le site web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
Amazon domine toujours au Québec malgré la grogne, un texte d'Annabelle Caillou paru le 8 mai 2025 dans Le Devoir. La grogne contre Amazon, nourrie par la fermeture de ses entrepôts au Québec et les tensions commerciales avec les États-Unis, a poussé près de la moitié des internautes québécois à réduire ou même à cesser d'acheter sur la plateforme. Le géant américain demeure malgré tout le site de commerce en ligne le plus utilisé dans la province. C'est du moins ce que révèle la nouvelle enquête Née Tendance sur le commerce électronique dévoilée jeudi par l'Académie de la transformation numérique, ATN. Parmi les quelques 1 000 personnes interrogées entre le 13 et le 30 mars 2025, 32% ont affirmé avoir réduit leurs achats sur la plateforme américaine, tandis que 17% ont assuré l'avoir carrément boycotté. Par ailleurs, 10% des internautes ont déclaré avoir mis fin à leur abonnement à Amazon Prime. L'ATN estime qu'entre son premier sondage en janvier et le second en mars 2025, le nombre d'abonnés au service est passé de 38% à 29%. C'est très rare de voir un boycottage aussi fort, surtout en l'espace de quelques semaines seulement, fait remarquer Riyad Ladari, directeur du Centre de recherche en commerce de détail et marketing numérique. Selon lui, ces chiffres seraient probablement encore plus élevés si un nouveau coup de sonde était mené ce mois-ci. On le sent, la grogne contre Amazon et les États-Unis ne faiblit pas. Est-ce que ça va perdurer? Se questionne quant à elle Astrid Alemao, responsable des enquêtes Née Tendance à l'ATN. C'est difficile de se passer d'Amazon, ajoute-t-elle. Difficile de se passer d'Amazon. Chiffre à l'appui, si 49% des internautes ont modifié leur comportement d'achat auprès d'Amazon, ils sont plutôt 70% à l'avoir fait auprès des autres marchands états-uniens en ligne. L'enquête montre plus précisément que 23% des internautes ont boycotté les autres sites de commerce en ligne de nos voisins du Sud et 47% y ont diminué leurs achats. Amazon a tellement élevé les attentes des consommateurs en matière d'expérience de magasinage, de service client, de livraison rapide. C'est difficile pour beaucoup de passer à autre chose, analyse Mme Alemão. Depuis des années, Amazon a une longueur d'avance sur les marchands québécois, canadiens et étrangers dans la province. En fait, elle ne cesse de creuser son écart année après année. À lui seul, le géant américain a accaparé en moyenne 64 % des dépenses en ligne des Québécois en 2024, contre 51 % en 2023, soit une augmentation de 13 points de pourcentage. Autre preuve de l'importance d'Amazon pour les Québécois, la plateforme trône en première place du classement des marchands en ligne les plus utilisés au Québec, 85 % des cyberacheteurs y ayant fait au moins un achat en 2024. Loin derrière, on retrouve Temu en seconde place, 25 %, puis Walmart, 24 %, Shine, 21 % et Costco, 19 %. Temu et Shine gagnant du boycottage. Les intervenants consultés doutent que le mouvement de boycottage contre Amazon ne fasse ainsi fondre aussi rapidement l'écart avec les autres marchands. Ils s'entendent également pour dire que les plateformes chinoises Temu et Shine risquent d'accaparer une part du gâteau. Les trois principaux critères d'achat en ligne pour les consommateurs sont les bas prix, la livraison gratuite et la disponibilité du produit recherché, explique Riyad Ladari. Ce ne serait donc pas étonnant que ceux qui boudent Amazon se tournent davantage vers Temu et Shine plutôt que vers les détaillants locaux. Les prix de ces derniers sont plus chers et l'offre de produits moindre. Astrid Alemão abonde en ce sens. Elle assure que l'ATN ne manquera pas de mesurer cet effet lors de la prochaine enquête Née Tendance. Elle se permet toutefois d'émettre quelques inquiétudes quant à cette situation. Les plateformes chinoises déploient des stratégies très efficaces pour maximiser les achats et fidéliser leurs clients. Ils utilisent pour ça des algorithmes personnalisés, des mécaniques de ludification et de promotion constantes. Au bout du compte, les gens consomment plus et ne comprennent pas qu'ils ne font pas réellement d'économie. C'était « Amazon domine toujours au Québec malgré la grogne ». Un texte d'Annabelle Caillou paru le 8 mai 2025 dans Le Devoir.
Faites la connaissance des champions de la cause de l'albinisme, Peter Ash. Un texte de la rédaction paru sur le site web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Peter Ash, fondateur et directeur de Under the Same Sun, une ONG qui œuvre à promouvoir dans le monde entier les droits et le bien-être des personnes atteintes d'albinisme qui sont marginalisées. Peter Ash est né à Montréal, au Canada, en 1965. Il est le benjamin de trois frères. Peter et son frère le plus jeune sont les seuls membres de sa famille à souffrir d'albinisme. Après sa licence en théologie, il devient pasteur et officie pendant 10 ans, tout en achevant son diplôme de maîtrise en conseil pastoral. Il entreprend alors une carrière commerciale en tant qu'entrepreneur dans la finance et l'immobilier. Il est marié et père d'un fils adolescent. Ni sa femme ni son fils ne sont atteints d'albinisme. Début dans la vie. Aussi loin que je me souvienne, je savais que j'étais différent des autres. Dès que je sortais de chez moi, je me sentais seul. Les regards appuyés, les sourires narquois et les commentaires me faisaient comprendre sans doute possible que j'étais différent. Je me souviens d'autres jeunes qui criaient « Hey l'albinos » dans les rues de mon quartier. Quand je prenais le bus, j'avais l'habitude que les autres passagers me regardent avec insistance. À l'école, j'étais souvent victime de brimades. Par ailleurs, je devais relever le défi d'apprendre dans un environnement scolaire peu au fait des graves problèmes de vision dont je devais m'accommoder à cause de mon albinisme. En tant qu'élève aveugle au sens de la loi, je n'arrivais jamais à voir ce qui était écrit au tableau noir. Parfois, le texte des polycopiés et des manuels était écrit trop petit. En général, les enseignants ne venaient guère à mon secours. L'école était un combat de tous les jours. Le sport était particulièrement difficile, car il s'agissait essentiellement de sports d'équipe nécessitant une coordination œil-main. Le plus souvent, des mauvais résultats creusaient encore l'exclusion sociale par rapport à mes pairs. Déclic. En 2008, par l'entremise du site web de la BBC, j'ai entendu parler du massacre de personnes atteintes d'albinisme. Une journaliste tanzanienne du nom de Vicky Ntetema avait écrit un article au sujet d'un sordide commerce de parties du corps de personnes atteintes d'albinisme qu'elle avait mis au jour. Au cours de son enquête en immersion, elle avait obtenu la preuve, vidéo à l'appui, que les sorciers s'adonnaient au trafic de ces organes et les vendaient pour des dizaines de milliers de dollars à des dirigeants fortunés. Cette vidéo m'a profondément marqué. Je me souviens que j'étais chez moi, à Vancouver, au Canada, et que je me suis dit, si je vivais en Tanzanie, en tant que personne vivante avec l'albinisme, je ne me sentirais jamais en sécurité la nuit au moment d'aller me coucher. Je ne peux pas rester les bras croisés ici au Canada, tandis que mes frères et mes sœurs se font massacrer tout simplement parce qu'ils souffrent de la même maladie génétique que moi. Je dois trouver le moyen de les aider. Et c'est ainsi qu'est né Under the Same Sun. Je me suis d'abord rendu en Tanzanie et en 2009, nous avons fondé Under the Same Sun, qui a ses bureaux en Tanzanie et à Vancouver. Mon objectif était de révéler au grand jour la discrimination meurtrière dont sont victimes ceux qui sont comme moi. J'avais prévu de recourir à l'éducation et au plaidoyer pour mettre en évidence les mythes délétères qui tuent les gens comme moi. Depuis 5 ans, c'est ce que nous faisons en Tanzanie, dans toute l'Afrique et aux 4 coins du monde. Aspirations en matière de droits de l'homme. Je rêve qu'un jour, les personnes atteintes d'albinisme occupent la place qui leur revient à tous les niveaux de la société et que l'époque de la discrimination à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme ne soit plus qu'un vague souvenir. C'était « Faites la connaissance des champions de la cause de l'albinisme » Peter Ash. Un texte de la rédaction paru sur le site web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.